Merci Band, un power trio à Saint-Laurent-du-Verdon.
C'est un groupe de blues phare de la scène nationale, voire internationale, mais en plus, Merci a des racines dans les Alpes de Haute-Provence en même temps que dans le Mississippi. Mardi 22 août à Saint-Laurent-du-Verdon, un public enchanté est venu écouter et apprécier en plein air le blues rock du trio puissant, le Merci Band, invité par le service culturel de la DLVA. C'est Jean-Paul Avellaneda aux guitares et chants, le bassiste Sébastien Antonioli et Romualdo Pinto à la batterie. Ils ont livré leurs compositions inspirées du blues du sud des États-Unis. Après et avant quelques mesures extraites du concert de Saint-Laurent, au micro d'Olivier Mouly, Jean-Paul Avellaneda parle de sa musique, ses textes, des États-Unis, des origines du blues, mais tout d'abord de ses guitares. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du groupe, sur Facebook, Merci Band. Musique.
Ces guitares. Alors, il y a tout d'abord la Les Paul, qui est une guitare que j'ai achetée à Los Angeles en 81, mais c'est un modèle de 1966, avec des gros micros crème, avec un son bien crémeux, bien épais. J'ai cette guitare donc depuis 40 ans bientôt. Et puis la Strat, elle, je l'ai achetée il y a 22 ans de cela, à Los Angeles. Et puis je l'ai fait ramener à Genève, effectivement, comme je raconte dans l'histoire pendant le concert.
Est-ce qu'on les aime, hein, ces guitares ?
Ben, moi, j'y suis attaché. J'ai jamais vendu une guitare. C'est pas possible. Oui. Pas possible.
On a eu la chance aussi d'entendre un peu. C'est un Dobro ?
Dobro, c'est une marque. Ça s'appelle une guitare à résonateur. En fait, la guitare à résonateur, si on quitte le cache chromé qu'il y a dessus, dessous, c'est comme un haut-parleur. Comme un haut-parleur en aluminium. Et le job, c'est de projeter le son. Ils avaient ça dans les années 20 parce que les amplificateurs n'existaient pas. Donc pour passer au-dessus des clarinettes et autres cuivres, et ils ont mis au point, ce sont des gens de l'Est, je ne sais pas si c'était des Hongrois ou qui ont mis ça au point.
Ouais. Souvent des sons aigus alors, forcément, pour passer au
alors, point, hein. Oui, c'est assez brillant, mais c'est cette projection de son grâce à ce système comme un haut-parleur, bien sûr.
On en vient à votre musique. Ce sont des compositions, des reprises ?
Surtout des compositions. À 95%, ce sont des compositions. Il y a pas mal de titres que j'ai écrits dans le sud, je dirais sud-est des États-Unis, autour du Mississippi, entre Clarksdale et l'Alabama.
Donc ce sont des endroits que vous connaissez ?
Oui, je suis allé plusieurs fois, bien sûr, à plusieurs reprises. Et justement, j'ai un de mes amis qui s'appelle Billy Cifarlo, qui était chanteur avec un groupe qui s'appelait Commander Cody, qui habite en Alabama, donc je résidais souvent chez lui. Autrement, le reste du temps, je me baladais entre Memphis, Lafayette, et c'est vraiment des endroits, des lieux que j'adore, parce que, comment dire, je prends des photos dans ma tête de ces lieux, et ensuite, j'ai juste à faire de la musique sur les images.
Et pourquoi, quelles raisons particulières, ces images ?
Alors, parce qu'il y a l'image, et j'essaie de mémoriser aussi les sons qu'il y a autour. La chaleur, la température, le vent, c'est vraiment différent d'ici, quoi. On n'a pas les mêmes grillons, on n'a pas les mêmes... le fond sonore est vraiment différent. Et ça fait partie de l'ensemble. Donc, dans mon image, est inclus un fond sonore. Après, j'essaye de jouer sur ces images et à chaque fois, enfin, peut-être pas à chaque fois, mais souvent sort un titre, une mélodie et comme ça.
Qu'est-ce que vous pourriez dire d'ailleurs des populations locales là-bas ?
Alors, c'est un vaste sujet parce que là, on est dans le sud des États-Unis. C'est assez lourd, notamment en ce moment, on s'en aperçoit.
Pour la ségrégation, vous voulez dire ?
Ouais, ouais. Et donc là, c'est tendu, mais ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir parce que les Américains sont des gens de cœur et j'adore ces gens et je sais que c'est pas parce qu'il y a deux, trois pas belles personnes que le reste, on doit mettre tout le monde dans la même marmite. Non, non. Ces gens sont très gentils, très intelligents et vous verrez, ils vont vous étonner.
Pour en venir à votre musique, vous parlez en fait en français, oui, sur vos introductions et ensuite souvent en anglais d'ailleurs.
Disons que j'essaye de, non pas de raconter la chanson, j'essaye de décrire l'atmosphère de la chanson. En fait, l'image dont je parlais précédemment, j'essaye de la décrire dans un texte en français pour que les gens comprennent ce que moi je ressens.
Plus une véritable ambiance. Hein.
Oui, c'est plus de l'ambiance plutôt que de dire ça, j'ai fait ça comme ça, ou ça comme ça, ou ça comme ça.
Vos thèmes sont plutôt assez classiques finalement par rapport au blues.
Très classique, ça reste... Vous savez, le blues, il y a le train, il y a le bar, il y a les gonzesses, le vaudou, l'alcool, tout ça. Enfin, il y a 5-6 thèmes. Avec tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont... Beaucoup de textes qui ont un double sens. Il y a toujours quelque chose, une histoire derrière. Il faut l'entendre, l'écouter, le comprendre, et on peut être étonné, quoi.
Qu'est-ce que vous recommanderiez comme artiste, comme grand artiste de blues, vous-même, qui vous aimez en fait, plus simplement?
Moi, à la base, les racines, bon, ça sera vite vu, hein, c'est Robert Johnson, qui est, voilà quoi, c'est le Crossroad à Clarksdale. Si vous écoutez Robert Johnson, vous avez déjà écouté 80% de tout ce qui peut se faire en blues.
Ouais.
Voilà.
Robert Johnson, c'est quelles années?
Les années 30. Oui, c'est vraiment le tout début. Bon, c'était pas le premier, hein. Il a pas mal piqué aux autres, hein, parce que les premiers chants, c'était des work songs, donc dans les années 1880, c'est des chants de travail, work songs, et les esclaves rythmaient avec leurs chaînes au sol et chantaient comme ça, juste en tapant des mains, il n'y avait pas d'instrument. Ça, c'est vraiment la base. Et puis après, sont venus les mandolines, les banjos, les choses comme ça, bien avant la guitare. Un truc très intéressant, c'est que la culture française est bien représentée, parce que moi, j'étais à Clarksdale une année à Memphis, au Bill Street Festival. Et là, j'ai entendu un gars qui jouait justement de la petite flûte, une petite flûte courte qui se jouait dans les armées napoléoniennes, et accompagné de caisses claires et de tambours. Et en fait, j'étais étonné. Et le gars chantait du blues avec, en s'accompagnant. Il y avait la flûte et les caisses claires et les tambours. Et en fait, les esclaves se sont inspirés des rythmiques napoléoniennes qui jouaient des claves. Et ont intégré ça dans le blues. Et c'est juste la clave. Et après, ils ont appelé ça le body de la beat. Mais en fait, c'est pas le body de la beat, c'était les armées napoléoniennes qui jouaient ça. Donc, ça sonne un peu l'escroquerie. Non, mais ils ont pas fait exprès. On retrouve des traces de ces musiques européennes aussi, donc. Les esclaves se sont nourris de toute cette musique aussi.
Jean-Paul, si on veut vous voir, vous avez des dates en tête?
Alors, là, on vient de finir la saison, on va finir tout bientôt la saison. Parce que là, ça a été un peu chargé, on a un peu enchaîné avec violence. On a bien roulé, et là, on finit cette semaine la saison, enfin, on va se donner un break.
Sinon, vous avez sûrement un site, ce sera plus simple peut-être.
Il y a un site qui s'appelle Mercy Band, Mercy-Band. N'hésitez pas à le visiter, il y aura des vidéos, des concerts de cet été. Si cela vous dit, vous êtes les bienvenus.